Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. Merci d'être au rendez-vous de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. J'espère que vous êtes en forme, que vous passez un beau week-end. Vous êtes peut-être en vacances, à la maison ou au travail. En tout cas, installez-vous confortablement. Voici le programme. Dans Clap cette semaine, nous reviendrons sur l'actualité cinéma marquée par l'annonce de la mise en chantier de Dune partie 2, mais aussi par l'affaire Alec Baldwin. Didier Allouche y consacrera un JT d'Hollywood spécial. À 14h20, mon invité est un réalisateur metteur en scène aussi à l'aise dans Brise de Nice que Belle et Sébastien ou encore Les Brigades du Tigre. C'est bien sûr Clovis Cornillac qui sera avec nous pour revenir sur la comédie pleine de charme Si on chantait, mais aussi sur les films de sa vie comme sa plus grande émotion de cinéma.
Il y a un film qui m'a extrêmement marqué, qui a compté beaucoup, c'est Taxi Driver.
Enfin, en dernière partie avec mes critiques, nous vous présenterons les sorties de la semaine, notamment Last Night in Soho, le film événement de toute une génération, ou encore La Fracture de Catherine Corsini. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
On commence cette émission comme chaque samedi avec l'actualité de la semaine. Et ça y est, c'est officiel. Warner vient d'annoncer la mise en chantier de Dune partie 2. On le savait, la deuxième partie dépendait du succès ou non en salle de Dune. Et comme le film a déjà mobilisé, attention, alors en France seulement plus de 2,8 millions de fans, on peut dire que le pari est largement remporté. Dans cette deuxième partie, le personnage de Zendaya entre enfin en scène. On a hâte de découvrir cette suite, toujours réalisée par Denis Villeneuve. En revanche, il faudra être patient car la sortie est calée en octobre 2023.
Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit. Je n'ai aucun contrôle dessus.
Qu'est-ce que tu as vu ?
Une croisade se prépare.
Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues ?
Oui.
L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
La souffrance.
Et puis cette semaine sort au cinéma, donc mercredi 3 novembre, un documentaire qui m'a beaucoup touchée. Pingouins et goélands et leurs 500 petits-enfants du cinéaste Michel Leclerc. Michel Leclerc, je rappelle, qui a réalisé La lutte des classes, Télé Gaucho ou encore Le nom des gens pour lequel il a reçu le César du meilleur film en 2011. Il livre ici un documentaire très personnel, l'histoire d'un couple de résistants surnommé donc Pingouins et goélands qui a sauvé des centaines d'enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la propre mère de Michel Leclerc.
C'est l'histoire d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est l'histoire d'un couple qui en a eu des centaines. C'est l'histoire d'un couple de pédagogues visionnaires, mais aussi de militants syndicalistes, de pacifistes acharnés, d'anards, de féministes, qui ont profondément marqué tous ceux qui les ont rencontrés. C'est l'histoire de la maison d'enfants de Sèvres, une expérience unique d'éducation qui a permis à des enfants terrassés de renaître à la vie par la curiosité, la prise de risque et l'ouverture aux autres.
Michel Leclerc réussit à proposer un documentaire différent, non linéaire, qui part parfois dans tous les sens, mais surtout qui nous embarque dans ce récit plein d'humanité et ce pan de notre histoire tellement sombre. Et en parlant d'histoire sombre, tragique événement, la semaine dernière, l'acteur Alec Baldwin a tué sa chef opératrice sur le tournage de son prochain film en tirant avec un pistolet censé contenir des balles à blanc. On y revient tout de suite avec Didier Allouche dans son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous. Il m'arrive parfois, comme tout journaliste en panne d'inspiration, d'utiliser des superlatifs ou des mots un peu forts, bref, d'exagérer un poil. Mais là, je suis très en dessous de la réalité quand je vous dis qu'Hollywood est en plein traumatisme, sous le choc, sonné. Le terrible accident qui a provoqué la mort de la chef opératrice Alina Hutchins sur le plateau du western Rust secoue la ville du cinéma comme je l'ai rarement vu en 25 ans de correspondance ici. Rappelons les faits. Le 21 octobre dernier, au Bonanza Creek Ranch, un ranch décor situé dans la banlieue de Santa Fe au Nouveau-Mexique, Alec Baldwin s'apprête à tourner une scène assez simple de Rust, un western indépendant à petit budget coproduit par Baldwin lui-même. La journée n'avait pas super bien commencé. Le matin même, la production a dû faire face à une fronde de techniciens qui se plaignaient de conditions trop difficiles sur le tournage. Hôtel pour l'équipe situé à plus de 60 km du plateau, journée trop longue, salaire pas assez élevé, une ambiance loin d'être au top. Ce n'était donc pas un super plateau, mais ce n'est pas non plus inhabituel pour une production au budget rikiki. Le quotidien d'un tournage est rarement aussi glamour qu'on l'imagine. Mais le jeudi après-midi, les choses avaient l'air de s'être apaisées. Et puis c'était un jour simple pour Baldwin. Il avait une scène tranquille, il est assis sur un banc d'église, il doit juste attraper son flingue, tendre le bras armé vers la caméra et tirer. Première répétition, l'assistant réalisateur lui tend le revolver, un Colt 45 à long canon, en criant, comme de coutume, « Cold gun », flingue sécurisée, si vous voulez. Baldwin tend l'arme vers l'objectif et tire. Le gun n'était pas cold. La balle qui sort du canon est une vraie balle. Elle performera l'estomac de la chef opératrice et l'épaule du réalisateur. Alina Hutchins mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. Le réalisateur Joe Souza sortira le lendemain. On ne sait pas encore comment un tel accident a pu avoir lieu. L'enquête est en cours et elle semble sérieusement menée. On sait par contre que le choc est énorme. Pour ceux qui y sont impliqués, bien sûr, Alec Baldwin se dit détruit. Mais pas seulement. Dans l'industrie, c'est la sidération. Alors bien sûr, même si les protocoles de sécurité sont très stricts, les accidents arrivent sur les tournages. Une cascade qui tourne mal, des chutes aux conséquences dramatiques ou du matériel lourd qui s'écroule. Oui, ça peut arriver, on le sait dans le business. Mais un accident avec une arme à feu, on pensait que ça n'arriverait plus jamais depuis le 31 mars 1993 et la mort de Brandon Lee sur le tournage de The Crow. Victime lui aussi d'un cold gun, pas si cold. Depuis, la sécurité autour des armes à feu sur les tournages américains est sévère. Les armuriers ne quittent jamais leurs armes de vue. Entre les scènes, ces armes sont enfermées dans des coffres dont seul l'armurier a la clé et jamais une arme n'est tendue à un acteur sans être vérifiée et sécurisée par l'armurier lui-même. Et ça marchait. Plus un seul accident de ce genre depuis 28 ans jusqu'à ce terrible jeudi d'octobre. Quand Hollywood aura repris son souffle, quand on saura ce qu'il s'est vraiment passé sur le plateau de Rust, alors peut-être trouvera-t-on une solution pour que jamais un tel accident ne se reproduise, pour que jamais plus le cinéma ne tue.
Quoi qu'il en soit, une histoire bouleversante et l'acteur Alec Baldwin, qui est également coproducteur du film, pourrait être poursuivi pénalement.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1 dans Clap. Place maintenant à notre entretien du jour. Et je reçois cette semaine un acteur, réalisateur de grand talent. Si je vous dis Brice de Nice, Astérix aux Jeux Olympiques, Radio Star, Les Brigades du Tigre ou encore Faubourg 36 et j'en passe évidemment. Vous l'avez reconnu, c'est Clovis Cornillac qui est mon invité cette semaine. Bonjour Clovis.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va pas mal.
Bon, alors je suis ravie de vous recevoir parce que vous serez à l'affiche mercredi 3 novembre d'une comédie qui rend heureux. Ça fait tellement de bien en ce moment de voir un film comme ça, Si on chantait.
Alors, ça c'est vous qui le dites. Que ça... non, mais en revanche, je trouve, enfin, comme vous, que c'est un film très, très frais, très honnête, sincère. Il y a voilà, quelque chose de très doux. C'est un film qui est doux et qui est sympathique. Et j'ai pu le vérifier en compagnie du réalisateur, parce qu'on a fait quelques villes pour montrer le film, comme on fait en avant-première.
Bien sûr.
Et c'est vrai que sur le public, c'est très joyeux. Ça met, on sent que ça leur fait plaisir et ça leur a fait du bien de voir le film, donc c'est chouette.
Et c'est vrai que c'est un film très lumineux et pourtant qui démarre avec un fond social, puisque ça parle de ces ouvriers licenciés obligés de trouver un emploi souvent très différent à celui qu'ils exerçaient. Et pourtant, c'est un film solaire.
Oui, c'était le réalisateur Fabrice Marouka, il vient en fait de l'endroit où on a tourné, qui s'appelle Kiev-Rochin, qui est juste à côté de Valenciennes. Et en fait, il y a cette sincérité dans le récit, c'est-à-dire qu'il filme le Nord, et il filme son endroit, il filme ses rues, les endroits où il a été élevé, où, voilà, où il a découvert la vie, mais de manière très lumineuse, pas du tout... c'est vrai que quand on pitch le début, tu dis « Oula, ça va être chaud !» Et c'est chaud, mais en même temps, il a cette espèce de joie, il y a quelque chose de très joyeux dedans, une envie de vivre, une envie de faire des choses, de se rencontrer, de se parler, de déconner. Donc il y a une sorte de, comme ça, de force de vie qui est assez jolie dans le film. Et bah, en fait, ça fait... enfin, je dirais la référence pour les gens qui, ce serait Full Monty. C'est typiquement ce type de récit, quoi.
C'est fini pour Valostil. Les 118 employés en grève depuis 3 semaines se retrouvent donc sans emploi. Un cataclysme.
J'ai pris une décision. On lance une boîte. Les gens appellent, ils choisissent une chanson et nous, on la livre à la personne de leur choix.
Si on chantait bonjour.
Allez, chez les gens, on chantait et en plus être payé pour ça, oui, je dis oui direct.
Quand la musique te sonne, 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 sonne.
Faut que tu respires ici, là, plus bas.
Quand elle ne triche pas.
Ah ouais, c'est mieux. Ah, je le sens.
Non, bah non.
Artus en apnée, on aime beaucoup. Livrer des chansons pour délivrer un message, quelle merveilleuse idée finalement.
C'est une très bonne idée, puis ça marche très bien dans le récit. Et du héros qui est joué par Jérémy Lopez, ce jeune homme qui se retrouve au chômage et qui se retrouve, comme beaucoup, à livrer des pizzas au milieu de la pluie et tout ça, parce qu'il ne fait pas toujours très beau dans le Nord, même s'il fait très beau dans les cœurs.
Et que les gens sont très gentils.
Et que les gens sont adorables, et ça, ce n'est pas, c'est pas une légende, c'est réel.
Non, c'est vrai.
Et il s'avère qu'il se retrouve dans une situation un peu embarrassante, c'est qu'il livre une pizza à un type, et sa femme est assise dans le salon, et elle voit une pizza arriver, elle dit « mais c'est mon anniversaire, et tu me fais livrer une pizza ?» Et le gars est très emmerdé parce qu'il a oublié. Quoi. Et là, le personnage que joue Jérémy, Franck, a une idée. Comme il tenait une chorale à l'intérieur de l'usine, tout à coup il dit « est-ce que votre femme aime une chanson ?» Il lui susurre à l'oreille et le gars lui dit une chanson et il chante en fait... Pour cette femme, comme si c'était un cadeau en plus de la pizza que son mari avait prévue. Et elle est bouleversée et ça lui donne une idée, c'est de dire et pourquoi on livrerait pas des chansons avec des messages et tout ça. Et ça part de là, le film part de là.
Il y a des moments très drôles dans le film, notamment cette scène où vous chantez du To Be Three pour un règlement de compte en fait.
Ah oui, ah bah oui. C'est assez embarrassant.
Bonjour, j'ai une livraison pour Marc.
Ouais, c'est moi.
Ah. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un message de Mélanie. Marc, je découvre que ça fait 4 mois que tu me trompes avec la standardiste de ta boîte et que tu t'en vantes à tous tes potes. Donc, je me casse. Adieu, du con.
C'est quoi ces conneries, là ?
Il y a une chanson qui va avec.
Hein ? Une chanson ?
Partir un jour sans retour. Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés.
On dort,
partir
dehors,
un jour sans bagage, oublier ton visage sans se retourner, ne pas regretter,
dégage.
Penser à demain recommencer.
Tu sors. Oh.
Chantait très bien.
Très bien. Ouais, c'est vrai que ça donne envie tout de suite hein, quand on entend.
Ah bah complètement. Il m'a manqué la chorégraphie. Vous n'êtes pas allé jusqu'à faire la chorégraphie. Quoique, il fait des gestes quand même.
Oui, il a, pendant
la scène.
Oui, il y a quand même du mouvement. Jean-Claude, le sexy de la bande.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Avec une très belle coupe de cheveux.
Et une jolie barbe, on peut le dire.
Oui, ça vous met en valeur.
C'est gentil. Et le costume aussi, vous avez
tout. Tout à fait. Voilà. Le style, tout. Ouais, vraiment.
Tout, ouais.
On aime beaucoup. Non, mais on l'aime bien, Jean-Claude. C'est un personnage très touchant.
On l'aime beaucoup, mais on ne peut pas dire qu'il soit au top de la mode. On est d'accord.
Non, c'est vrai. C'est pas son point fort.
Voilà.
Quel est votre regard alors sur lui ? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ?
Après, chez lui n'existe pas. Hein,
bien
en
sûr,
vrai,
personnage.
Ce que je veux dire, c'est que en fait, j'aimais bien cette idée. Je trouve ça très joli, ces trois personnages que sont donc joués par Jérémy Lopez, Artus et Alice Paul, où ils sont comme ça d'une génération commune, ils ont cette espèce de douceur, ils sont beaux, ils ont quelque chose de très gracieux, enfin que j'aime beaucoup. Et ce personnage qui est un peu plus vieux, qui lui est totalement désharmonisé de cette bande un peu plus fraîche, et en même temps il est touchant parce que c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui sont inspirés de moi, de personnes de ma famille ou d'amis ou de gens que je connais qui sont comme ça un peu décalés, c'est-à-dire extrêmement sympathiques, qui ne demandent pas grand-chose, qui sont plutôt bienveillants et tout ça, mais qui... Voilà, c'est pas... Et ce que je trouve très joli, c'est qu'en fait, l'endroit où il peut tout à coup lâcher, c'est l'endroit où il devient hyper séduisant, c'est-à-dire séduisant pas évidemment pas physiquement, mais on se dit que tout est possible, quoi, qu'il y a quelque chose qui est on n'est pas obligé de s'enfermer, on n'est pas obligé de s'éteindre, et c'est des gars qui peuvent vite s'éteindre et qui sont peut-être éteints aussi depuis longtemps, et puis tout à coup ça se rallume, c'est... et c'est joli.
C'est exactement ça, c'est que ce groupe, cette entreprise, si on chantait, qui va lui redonner la petite lueur qu'il a perdue en chemin. C'est aussi un film sur la vie, sur les années qui passent, sur ce qu'on fait aussi d'une passion, et puis surtout sur la force du collectif.
Ouais, la camaraderie, ouais.
C'est vraiment ça, hein, c'est un film sur l'entraide, et puis surtout tous ces personnages qui finalement, isolés, ils n'y arrivent pas, mais ensemble, ça prend, il y a la magie qui opère.
Ben, oui, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui en ressort, et quand j'ai vu le film et quand je le partage avec du public, on sent que l'enthousiasme il vient aussi de cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est difficile de ne pas se retrouver avec Chantal Neuwitz, qu'on n'oublie pas, évidemment.
Qui fait partie de la bande aussi.
Qui fait partie de la
bande. Il y a une scène quand même d'anthologie, elle chante du Camaro, je crois.
Ouais,
c'est assez drôle.
Et en fait, il y a comme ça toutes ces générations. On connaît forcément un de ceux-là. Mm. On est tous...
On l'a croisé.
Ou c'est nous, ou c'est nous-mêmes, oui. Ou c'est quelqu'un qu'on connaît.
Ce qu'il faut dire, donc, c'est un premier long métrage, c'est très réussi. Là, je vais parler au réalisateur que vous êtes, parce que je sais que la réalisation a pris une part très importante dans votre vie. C'est touchant de voir la naissance d'un cinéaste et d'y participer.
Je trouve ça, j'ai fait beaucoup de premiers films comme acteur, en tout cas pas mal. Ce qui est très chouette, c'est de sentir que quelqu'un est habité et que même s'il y a de la fragilité ou qu'il y a des doutes, des... je ne sais pas comment dire, oui, une sorte de fébrilité, il y a une envie telle de passer de sa tête à quelque chose de physique avec tout le monde que j'aime bien essayer de lire à l'intérieur d'une réalisatrice ou d'un réalisateur et d'essayer d'accompagner au maximum le mieux qu'on peut. Donc, je trouve ça... Fabrice est vraiment habité. C'est pas, d'ailleurs, il est habité, il y a du monde avec lui.
C'est un
gars très particulier, extrêmement sympathique, très séduisant, parce qu'il a une folie. Il est perché et en même temps très là. Donc, c'est quelqu'un à connaître. Un jour, il faudra que vous l'invitiez parce que vous verrez, c'est quelqu'un de particulier.
Vous dites aujourd'hui que la réalisation, c'est la plus belle chose qui vous soit arrivée dans la vie.
Professionnelle, ouais.
Oui.
Ouais, ouais. Oui, absolument. C'est d'autant plus, je pense, d'autant plus fort que c'était totalement inattendu, voire interdit pour moi.
Donc, pourquoi?
Parce que j'ai un regard sur l'interprétation que j'adore, que je trouve formidable, mais que souvent j'associe, pour moi c'est de l'artisanat d'art, je trouve ça très noble, et je trouve ça fabuleux de travailler pour des architectes et d'avoir souvent j'associe le métier d'interprète à de la marqueterie, et parce que c'est un travail d'art, c'est un travail fin, il faut proposer, il faut pouvoir entendre ce que l'architecte veut faire. Et tu viens avec ton matos, avec du bois, tu dis tiens, qu'est-ce que tu penses d'un peu d'ébène, un peu de buis, un peu de machin. Et puis tu composes quelque chose à l'intérieur d'un projet de l'artiste. Et je ne pensais pas du tout être un artiste, ni n'avoir le droit d'être un artiste. Et en fait, la réalisation, la première fois où je l'ai pratiquée, il y a eu une évidence incroyable, inattendue et tellement heureuse, tellement plein, c'est la chose qui me comble le plus, évidemment, comme professionnellement, c'est un truc de fou, quoi. J'espère vraiment qu'à chaque fois que je finis un film, qu'il est terminé, que le DCP est prêt et tout, je me dis pourvu que j'en fasse un autre.
Si vous deviez régler vos comptes avec quelqu'un en chanson, ce serait avec qui et quelle chanson?
Avec qui
Vous n'allez pas nous le dire, c'est
non,
ça
non, oh. Non, il y a peu de chance. Mais parce qu'on croise des événements dans nos vies, des
Bien
gens,
sûr.
Tout ça et tout. Bon, en général, je préfère régler entre quatre yeux, clair en face à face. Je ne sais pas si j'aurais je crois que j'aurais la gorge tellement serrée que j'aurais du mal à chanter pour quelqu'un que je déteste. Donc, c'est l'inverse du film.
Et alors, si vous deviez, je ne vous demande pas à qui, mais une chanson à conseiller pour déclarer sa flamme. Disons la plus belle chanson d'amour, alors. C'est laquelle pour vous?
Pour le coup, on a cette chance d'avoir énormément sur la thématique de l'amour. On en a quand même. Mais par exemple, c'est pas tellement. C'est pareil, je préfère dire ça entre quatre yeux, mais qui a une sorte d'énergie comme ça, de jeunesse, de force, de pureté. C'est quand on n'a que l'amour de Brel, où c'est plus général. C'est-à-dire que ce que je trouve très beau dans cette chanson, c'est que l'amour est quelque chose qui est au-delà du rapport amoureux, mais qui est comme une force, quoi. Et je trouve que cette chanson a une fraîcheur dans sa force, dans sa naïveté, mais qui en même temps, tu fais, ouais, mais c'est puissant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie utopie dedans auquel je crois. Et je crois beaucoup plus à quand on n'a que l'amour qu'au cynisme ambiant.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap qui continue avec cette semaine à mes côtés Clovis Cornillac qui sera donc mercredi prochain le 3 novembre à l'affiche de la comédie Si on chantait. Un film qui donne envie d'être heureux, en tout cas qui met de bonne humeur, ça c'est certain. Et Clovis, maintenant, si vous voulez bien, on va parler des films de votre vie. Alors le cinéma, on le sait, est rentré très tôt dans votre vie puisque vos parents étaient du métier, enfin sont du métier. Votre meilleur souvenir de cinéma, ce serait quoi?
Alors, il y a un film qui m'a extrêmement marqué, qui a compté beaucoup, c'est Taxi Driver. Taxi Driver, je dirais Taxi Driver, Midnight Express, c'est des films que j'ai vus jeunes.
Violents?
Oui, violents, mais en fait, oui, violents, parce que, voilà, c'est comme, on parlait de musique tout à l'heure, c'est comme des morceaux parfaits, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est juste à tous les endroits. Donc, c'est frappant, quoi, quand la justesse est partout et que elle est intelligente, qu'elle est inspirante, qu'elle te scotche. Enfin, voilà, il y a quelque chose avec ce film de particulier.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here.
Bon, on l'a mis en anglais, c'est tellement culte.
Ah bah ouais, ouais. Mais souvent c'est cette scène qui a été mise
dans la haine.
Puis qui a été mise en exergue même avant la haine, mais qui est comme c'est pour ça que dans la haine il le reprend, c'est parce que c'était. Mais concrètement, cette scène est super, mais une scène hors d'un film, ce qui est le film est vraiment formidable. Ce pauvre mec dans son taxi, il y a quelque chose. Et à aujourd'hui, je pense que de intéressant d'aller revoir ce film dans l'époque dans laquelle on est, parce que attention, on n'est pas si loin, quoi.
Non, c'est vrai, ça fait peur. Votre première grande émotion au cinéma?
Ma première. Ah, bah oui. Et c'est forcément quand j'étais gamin, et c'est forcément un dessin animé, c'était Les Aristochats, parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Et c'est un film, alors là, pour le coup, ouais.
On est loin de Taxi Driver, évidemment.
Pas tant. Parce que, évidemment, heureusement, on va pas. Mais O'Malley, quand j'étais gamin, je me suis vraiment projeté dans O'Malley. J'étais O'Malley, quoi.
Qu'est-ce que vous aimiez?
C'est pas que j'aimais, c'est que je pensais pareil que ce gars, quoi, que le chat. Pour le coup, j'étais un chat de gouttière. J'étais pareil, duchesse, c'était pas possible. Il y avait quelque chose comme ça, et en même temps, de camaraderie avec ses potes, avec tout ça. Et donc, c'était. Moi, j'étais dans les quartiers populaires et tout. Et puis, c'était ma manière de vivre, c'était ma manière de projeter la vie, quoi. Donc, c'est un souvenir très, très fort, parce que tu te dis, ah! Le cinéma, enfin en tout cas, là c'était un dessin animé, mais c'était un film, me parle.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Ça c'est Horror Picture Show, parce que c'est... Alors je sais pas si le cinéma existe encore et s'ils le font encore, mais Horror Picture Show, c'est un film musical et assez barré.
You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show.
Ce qui est fou, c'est que les gens dans la salle, en fait, le principe, c'est que ça se jouait dans une salle au Quartier Latin. Et en fait, t'avais tout le monde connaissait par cœur, était déguisé comme les gens du film, et à toutes les séances. Hein. Et, c'était les séances le soir en général. Et donc, le spectacle était aussi bien dans la salle que devant l'écran. Et ils interagissaient avec l'écran. Donc c'était
Oui, ils revivaient le film et ils balançaient du riz, c'est
tout,
ça
tout. Tu avais le riz, de la flotte, du truc, ça chantait, ça hurlait. Les gens étaient maquillés comme dans le film. Enfin voilà, il y a un délire. Donc c'était les séances les plus dingues.
On vous a transmis, Clovis Cornillac, un questionnaire pour préparer cette émission. Alors là, je vais grouper, puisque vous avez eu la même réponse pour trois questions. Le film que vous revoyez sans cesse, votre comédie romantique préférée et le film dans lequel vous aimeriez vivre. Et d'ailleurs, vous avez donné une réponse qui est souvent donnée dans cette émission, c'est Chantons sous la pluie.
Ah bah, c'est rigolo. Bah, c'est rigolo que ce soit souvent donné, tant mieux. Enfin, tant mieux parce qu'on sera plusieurs à vivre dedans, mais... Non, c'est un film...
À un moment donné, il n'y aura plus de place.
Ouais. Non, mais c'est un film... voilà, pour moi, ça fait partie des... comme on disait, il y a les chefs-d'œuvre, les Kubrick, La Nuit du Chasseur, enfin, Citizen Kane, tout ça, enfin, tous ces films qui constituent une réflexion sur le cinéma et sur une manière de filmer et tout ça. Et puis, il y a le cinéma que j'appelle une sorte de cinéma parfait, quoi. C'est-à-dire, Chantons sous la pluie... On parlait de musique tout à l'heure dans le cinéma, cette espèce de langage entre le corps, la danse, la musique, un espace complètement merveilleux avec une image à la Technicolor qui reste comme quelque chose de... un espace d'évasion fou, quoi. C'est un film parfait, drôle, avec des acteurs remarquables, parce qu'ils dansent et ils chantent de manière remarquable, une musique, enfin tout, je trouve que c'est... Et puis c'est des grands films, ils sont longs, tu sais, c'est des beaux voyages, franchement, c'est une réussite, il y a certains morceaux de musique comme ça où tu te dis, tiens voilà un morceau parfait, c'est un film parfait.
I'm singing in the rain. Just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above.
Ça fait partie des films que vous montrez à vos enfants, je suppose.
Oui, mais alors je veux toujours le montrer au bon moment. C'est-à-dire que la première fois soit surtout pas un moment d'ennui. Puis comme c'est des films que tu as envie de montrer en VO. Mes filles, elles l'ont découvert. Bon, maintenant, elles sont grandes, donc elles l'ont vu. Voilà. Mais par exemple, mon dernier là, j'attends parce que je veux pas qu'on rate le truc. Et puis c'est un film dans l'univers du cinéma, donc je pense que c'est tout ça aussi qui. C'est pas tous les films qui parlent de cinéma en général, tu passes toujours à côté. C'est jamais. Et là, il y a un aspect ludique incroyable.
Et surtout qui traverse les époques, on a l'impression que ce film, on va se le passer de génération en génération, qui restera.
Ah mais c'est pas une impression, c'est pour ça que c'est une sorte de film parfait dans son domaine, quoi.
Je rappelle, Clovis Cornillac, que votre mère est une grande comédienne, Myriam Boyer. Je suppose qu'elle vous a emmené très tôt au cinéma, elle vous a fait découvrir comme ça aussi de grands films.
Alors non. On n'était pas... Myriam, c'est... Nous, on a très peu d'écart d'âge. Et c'était quelqu'un de très impliqué. C'est quelqu'un de... Mais on n'est pas une famille d'intello. Donc, aller au cinéma, c'était une démarche qu'on faisait, je me souviens, tous les deux. C'était super. Mais par exemple, on n'allait jamais voir des vieux films. C'est pas du tout... Non, on allait voir des trucs qui sortaient. Et en fait, en gros, par exemple, on se faisait une journée cinéma. Et l'idée, c'est moi, j'allais voir les films que je voulais voir et elle, les siens. Puis on se retrouvait entre les séances. Et donc, on se retrouvait, hop, et puis on repartait chacun dans une salle. Et c'était un kiff pour moi, incroyable.
C'est génial.
Bah ouais, c'était top. Mais on n'a jamais été... moi, même, je suis d'ailleurs pas cinéphile, je suis vraiment cinéphage. J'ai vu beaucoup, beaucoup de films de mon côté. Je suis parti tôt de la maison, donc... mais j'ai toute la culture cinématographique. Nous, notre culture, on se l'est fabriquée, on s'est démerdé. En fait, on n'était pas du tout dans quelque chose qui pourrait sembler, je ne sais pas, un milieu arty, quoi. On n'était pas du tout là-dedans. On était très dans le travail populaire et plutôt aller aller au taf avec bonheur, mais pas du tout dans un esprit de famille d'artistes.
Oui, pas ça. Pas regarder les films parce qu'il faut, parce que c'est
même
le
pas,
film.
Même pas juste même notre culture, on n'en avait pas. Donc c'était quelque chose qui se fabriquait, mais qui n'était pas du tout lié. Voilà, bon, les bouquins, il n'y en avait pas. Voilà, ça m'est venu très tard, mais je me suis mis à lire comme un fou dans mon coin. Mais c'est un truc qui... Tout est empirique chez nous, c'est pas du tout... pour nos enfants, enfin, je pense que pour mes enfants, pour ça, c'est autre chose. Ils sont nés au milieu de bouquins, de trucs comme ça et tout. C'était... Mais nous, on s'est fabriqué...
Il y a plus de transmission.
Ouais, on s'est fait... Mais en revanche, beaucoup d'amour.
C'est le plus important.
C'est en tout cas essentiel, c'est clair.
On passe au film que vous recommanderiez à un enfant.
Oh ben, La Grande Vadrouille, oui. La Grande Vadrouille, parce que voilà encore un film extrêmement bien réussi. Alors, ça pourrait être La Grande Vadrouille comme ça pourrait être Rabbi Jacob. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait presque plus Rabbi Jacob en premier.
Ce serait un Louis de Funès, quoi.
Ce serait un Houri. Et ce serait avec un sujet comme Rabbi Jacob, je trouve que c'est chouette. Ça ouvre l'esprit, ça se marre, c'est extrêmement intelligent. C'est swing, il y a du côté enfantin avec le chewing-gum, avec tout ça, et en même temps il y a un sujet qui est quand même qu'on aurait du mal à pouvoir faire aujourd'hui. Donc je me dis je pense à un film vertueux, drôle et vertueux, avec un génie qui est évidemment Louis de Funès, et puis d'autres acteurs autour qui sont formidables. Donc oui, je dirais peut-être en fait Rabbi Jacob et La Grande Vadrouille, et La Grande Vadrouille parce que c'est un chef-d'œuvre de la comédie à tout point de vue. Donc voilà, on va dire les deux collés, faites un goûter entre les deux.
Le film, alors là c'est plusieurs, il n'y en a pas en particulier, je dirais c'est un style. Les films que vos parents ont eu raison de vous faire découvrir.
Mais je pense que le genre du western, alors c'est, encore une fois, ce n'est pas mes parents, pour être tout à fait sincère, c'est en fait la télé, parce que...
Le film du dimanche soir.
Alors, c'était pas le dimanche soir, parce qu'on n'avait pas le droit. Il y avait l'école le matin, mais donc tu voyais que le début le dimanche soir. T'entendais que le début. Non, mais c'était le mardi soir. Et le mardi soir, il y avait effectivement souvent ou un Tarzan ou des westerns. Et j'avoue que j'ai découvert les westerns. Et les westerns, ça a été une révélation absolue. C'est-à-dire, et je me souviens de moi, gamin, regardant la télé, me disant comment, avec une sorte de plaisir, tu sais, du cœur qui bat, du plaisir, en se disant comment on ne peut pas aimer un western, on aimera toute notre vie un western. J'étais convaincu, les chevauchés, il y avait quelque
paysage,
chose.
Le règlement de compte.
Tout. C'était, voilà, le western est un socle. À plein d'endroits, parce qu'il est souvent binaire, parce qu'il est souvent aventureux, parce que les personnages sont trop gros, enfin c'est des sortes de tragédies simples, et donc c'est un... Ouais, le western, mais je dirais plus, c'est pas vraiment mes parents, pour le coup.
Si je vous demande la bande originale de film qui vous met de bonne humeur.
Ah bah, alors, les Blues Brothers, parce que déjà, voilà encore un film à voir et à revoir, c'est-à-dire que c'est un duo d'acteurs incroyables. C'est la grande période de John Landis, qui est un réalisateur qui a marqué... Alors, il y a des films de lui qui ont mal vieilli, mais ce n'est pas de sa faute. C'est le cinéma des années 80, souvent, a un petit coup dans l'aile, parce qu'on était quand même habillés pas très bien à l'époque. Les lumières et les cadres ne sont pas toujours déments. Mais en revanche, parce que je pense à 48 heures, je pense à Les Loups-Garous de Londres, ces films-là où Un fauteuil pour deux, c'est des films qui nous ont vachement marqués, qui ont un peu mal vieilli, même si je suis heureux de les revoir. Hein. Mais alors que les Blues Brothers, c'est impossible.
Bah, rien que par la partition musicale.
Ne serait-ce que la partition, mais pas que. C'est-à-dire que même graphiquement, même visuellement, même le jeu, même tout ça, et comme le film était, quand il est sorti, il était fou, il était complètement décalé. Du coup, ce décalage tient toujours.
Avec, on rappelle, hein, Dan Aykroyd, John Belushi, et puis surtout, et tous les guests, Aretha Franklin, James Brown.
C'est dingo. Et puis, c'est un bon. Et cette bande musicale, elle est folle.
C'est quand même l'un des plus gros tubes. ever.
Je sais pas, c'est énorme. De toute façon, ce qui est incroyable dans ce film, c'est que déjà, il est jubilatoire. Tu prends un plaisir à regarder ce film-là. C'est, voilà, je conseille à tout le monde, vraiment, vraiment, pour s'il y en a qui ne l'ont pas vu, quelle chance. Et puis ceux qui l'ont vu, quelle chance de le revoir. Et effectivement, les moments musicaux sont énormes. Énormes.
La partition est dingue. Ah, ouais. Et alors, pour terminer, la musique que vous écoutez pour vous motiver, c'est celle.
C'est
celle qu'on va découvrir, nous, un petit peu plus tard dans la saison.
Voilà, mais c'est sincère. Hein. C'est vrai que c'est magnifique. Le titre d'un film que j'ai réalisé, mais d'une chanson aussi. Je dirais que le film est un film, j'espère, très, très porteur et qui met du peps et de la joie et qui fait regarder peut-être le monde. C'est un film un peu décalé, mais qui fait regarder le monde avec le champ des possibles. Et c'est vrai que dans les différentes versions de la musique de Cole Porter qui a fait, c'est magnifique, que ce soit Dario Moreno, que ce soit peu importe, il y en a plein qui l'ont chanté. C'est un morceau qui me file la pêche, quoi. Et bien avant de faire le film, c'est un morceau qui me file la pêche et mon compositeur a fait une musique pour le film en plus qui me file la pêche. Donc voilà, c'est pas simplement pour faire référence à moi. Non, c'est vrai.
Non, mais je sais que vous êtes sincère. De toute façon, on vous connaît pour votre sincérité. C'est aussi pour ça qu'on vous aime, Clovis Cornillac. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Je rappelle que Si on chantait sera en salle donc mercredi prochain, le 3 novembre.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 et vous écoutez Clap, l'émission qui vous parle de cinéma chaque week-end. Ici, on aime tous les cinémas et c'est pour cette raison que chaque semaine, accompagnée de mes critiques, j'évoque les différents films à découvrir au cinéma. Pour débattre donc de l'actualité, j'ai à mes côtés Victor Bonnefoy, bonjour.
Salut.
Et bravo parce que Victor, vous avez sorti un excellent livre, Pardon le cinéma, sélection de 100 films méconnus mais pourtant incontournables, sélectionnés par vos soins.
Ben oui, et puis par toute l'équipe, Sophie Grèche, Simon Rio, Marc Mouquin, tout le monde a sélectionné des films et donc du coup, ça vient de sortir, allez dans les FNAC, allez en librairie, allez acheter ça, je pense que vous allez découvrir des choses super sympas.
Voilà, livre indispensable, et puis Franck Vallière aussi, qui est là cette semaine.
Bonjour, moi j'ai sorti un livre dans ma bibliothèque, c'était Le Rouge et le Noir, je l'ai remis.
Bravo. Alors avant de vous lâcher dans l'arène des sorties, messieurs, on regarde le box-office de la semaine et en tête, c'est une nouveauté, Venom, avec 676 000 spectateurs. Qui relègue le dernier James Bond, Mourir peut attendre, à la deuxième place du box-office avec 571 000 tickets vendus cette semaine. Au total, James Bond totalise plus de 2 731 000 spectateurs en 3 semaines d'exploitation, ce qui est plutôt très bien. Et puis sur la troisième marche du podium, on retrouve Eiffel avec 320 000 entrées cette semaine, soit un cumul en 2 semaines de 730 000 spectateurs. Je pense que le film va dépasser le million, donc on est très content pour eux.
Ah oui.
Alors on démarre maintenant notre journal des sorties avec La Fracture en ce moment dans les salles, le drame social de Catherine Corsini présenté au dernier festival de Cannes avec au casting Valeria Bruni-Tedeschi, Marina Foïs ou encore Pio Marmaille, un film sur les fractures de notre société qui raconte la rencontre entre un couple qui va mal et un militant des Gilets jaunes blessé lors d'une manifestation.
Qu'est-ce que tu voulais, toi ? T'étais pas déjà là hier ?
Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite.
Tu vas jamais tenir un CV.
Il y a Macron qui va parler, j'ai envie d'entendre, c'est tout.
Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr.
Je ne suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous, qu'on me tire dessus ?
Non.
À votre âge, vous
savez
même plus pourquoi vous battez, mais c'est pathétique.
Mon âge de quoi ? Vous me faites chier avec mon âge. Aïe !
Moi, ce que je voulais, c'était que Monsieur Macron, il vienne nous voir et nous dise, on va parler.
C'est dans la merde aussi, non ?
Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je ne vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte.
Alors Victor Bonnefoy, vous en avez pensé quoi ?
Je suis un peu embêté par La Fracture. En fait, je vais être très simple sur le film. Moi, j'ai aucun problème quand Catherine Corsini me parle de la situation des hôpitaux qui sont débordés et qu'elle me le montre en plus avec des véritables médecins, des infirmières qui sont dans le film, qu'elle nous montre justement cette situation qui est au bord de l'explosion. On l'a vu pendant la crise du Covid, ça a effectivement explosé et donc du coup, très intéressant de voir Catherine Corsini mettre ça en scène. J'ai aucun problème avec les comédiens du film parce que j'aime bien Marina Foïs, parce que je trouve que Valeria Bruni-Tedeschi depuis le début d'année est merveilleuse dans chaque film dans lequel elle joue et parce que j'ai un amour fou pour Pio Marmaille, donc le voir déambuler au milieu de tout ça, j'aime bien. Moi j'ai un vrai problème en fait avec le film qui a l'air de découvrir un peu naïvement ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes, d'essayer de découvrir un petit peu naïvement ce qu'a été le mouvement social. J'ai un peu l'impression que en fait on parle à ma grand-mère pour lui dire tu sais qu'il y a eu des gens sur les ronds-points, regarde, il y a eu des Gilets jaunes, c'était formidable. Non, les Gilets jaunes ça a été un mouvement global où la majorité normalement des gens qui ont milité ont vu passer des choses sur les gilets jaunes. Là, j'ai un peu l'impression par instant que c'est la bourgeoisie qui découvre les gilets jaunes, et ça m'embête parce qu'on a quand même eu des films incroyables comme Un pays qui se tient sage qui en parlait vachement mieux. Là, c'est un peu naïf enfantin. Le seul personnage qui est un gilet jaune représenté dans le film, c'est Pio Marmaille. Il montrait comme un débile. Merci beaucoup de résumer tout un mouvement social gigantesque à un personnage un peu bête, quoi.
Non, mais c'était pas l'objet du film de résumer le mouvement. On parle surtout des dommages collatéraux, en l'occurrence de l'hôpital, et tout le reste n'est qu'un prétexte finalement. Catherine Corsini est suffisamment fine pour ne pas se laisser plonger dans un manichéisme opportun ou...
Oh, elle montre quand même une manifestation de gilets jaunes qui débarque dans l'hôpital comme une manifestation de zombies, quoi. Donc il y a un truc... je suis désolé, à partir du moment où vraiment on déshumanise autant des gens qui ont galéré et qui demandaient juste quelques aides, je trouve ça un peu triste.
Laurie, vous avez dit qu'il s'agissait d'un drame, en fait c'est surtout une comédie, donc on rit de quelque chose d'extrêmement dramatique, la situation des hôpitaux en France, voilà. Et le reste n'est que le décorum.
Alors on écoute maintenant ce que vous en avez pensé.
J'ai bien aimé parce qu'il y a un peu d'humour, un peu de problèmes sociaux, de problèmes politiques, donc le mélange fait que c'est agréable à regarder.
J'ai bien aimé parce que ça se passe dans les hôpitaux et si ça pouvait changer les choses.
Très bien, dur par moments, réaliste. Et bon, il y a certains mauvais souvenirs qui reviennent par rapport à ce que les gens ont fait aux gilets jaunes. Il est à voir et il fait réfléchir.
Alors le public est conquis. On passe maintenant à la sortie du thriller fantastique Last Night in Soho, film très attendu par les cinéphiles. L'histoire d'Elodie qui s'installe à Londres pour ses études et dans ses rêves, elle se retrouve plongée dans les années 60. Elle rencontre alors l'une des stars montantes de l'époque. Mais la réalité et l'illusion vont vite se mélanger.
La nuit dernière, j'ai vu quelque chose. Dans mes rêves, il y avait une fille.
Et vous êtes ?
Sandy. J'ai une sorte de don. Je vois des gens, des endroits, des choses que personne ne voit. Ce ne sont pas que des rêves. Je veux signaler un meurtre. L'homme qui l'a tué court toujours. Il faut que je l'arrête.
Victor Bonnefoy.
Quel petit bonheur que ce Last Night in Soho, Edgar Wright, qu'on connaît déjà pour récemment Baby Driver ou Scott Pilgrim, qui revient avec un film qui a bien révisé son petit Argento illustré, qui a bien révisé son petit Enfer de Georges Clouseau illustré et qui revient nous parler des années 60, d'une nostalgie. Est-ce que cette nostalgie est justifiée? Est-ce qu'on devrait retourner vers les années 60? Non, parce que les années 60, c'était pas toujours rose. On fait un film qui est à la fois tendre, fantastique et en même temps qui vire par instant vers l'horreur, vers la recherche de serial killer. Il y a plein de choses extrêmement folles, extrêmement douces et extrêmement cinématographiques dans ce Last Night in Soho. Et le voir, je trouve ça formidable.
Quel enthousiasme! Est-ce que c'était pareil à la sortie des cinémas?
J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai assez deviné le déroulement, mais c'était tellement bien réalisé que je ne me suis pas ennuyé. Les scènes étaient vachement bien faites. Les acteurs sont superbes et ça donne envie de réécouter les chansons des années 60.
J'aime beaucoup le réalisateur. C'est un nouveau genre pour lui. C'est un peu un film d'horreur en fait. Ça m'a rappelé un peu Baby Driver dans le sens où la musique rythme un peu le film. Et le film est monté un peu avec la musique.
Les parties dans le passé très intéressantes, beaucoup de jeux sur tout ce qui est un petit peu réflexion dans les miroirs, etc. Avec de très belles séquences, notamment de danse, même reconstitution. Puis beaucoup de palettes de couleurs très vives, beaucoup de jeux là-dessus. Donc très intéressant aussi. Bonne expérience.
Une bonne expérience, voilà, à voir au cinéma. Et puis cette semaine est chargée au niveau des sorties salles. Il y a aussi le nouveau Wes Anderson, The French Dispatch. On se souvient de l'arrivée du casting en bas des marches du dernier Festival de Cannes en bus. C'est un film qui a été tourné à Angoulême avec un casting de rêve, de Léa Seydoux à Timothée Chalamet en passant par Tilda Swinton ou encore Adrien Body. Et je sais que vous avez beaucoup aimé tous les deux, Franck Vallière.
Oui, évidemment. Alors, et ce qui est fantastique, c'est qu'on se dit, mais ça doit être un cauchemar d'agent de réunir tous ces gens. Chaque plan, on dit, ah, il est là, lui, ah, il est là, lui. C'est-à-dire que l'ensemble des tapis rouges d'un festival de Cannes ressemble à côté à une assemblée générale de copropriétés dans la Creuse. Il y a un monde de fous, c'est multi-référentiel, on sent que Wes Anderson est à son affaire, il bricole, mais il bricole chic. Il y a des références à n'en plus pouvoir, rien que dans la troisième partie, par exemple. Est-ce un hasard si on voit quelqu'un qui joue aux cartes et qui ressemble à Jean-Pierre Melville? Je ne crois pas. Est-ce un hasard si Jeffrey Wright ressemble étrangement à James Baldwin avec sa perruque? C'est un ensemble monumental d'assemblage, peut-être un peu trop bavard, ce qui fait que Pulp Fiction à côté, c'est un film muet, hein, il faut bien le dire, mais esthétiquement très joli.
Toujours avec Wes Anderson, Victor.
Esthétiquement, dès le premier plan, on sait qu'on est chez Wes Anderson. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans son style, c'est qu'on enfile les chaussons, on est à la maison, on est ravi. Et en même temps, son style évolue encore une fois, et surtout ses thématiques évoluent. C'est par exemple un film qui aborde assez frontalement, à plein de niveaux, la question de la sexualité, qui aborde le nu. Moi, j'avais rarement vu du nu chez Wes Anderson, et qui soudainement va, à travers trois histoires dans ce journal, nous parler des effets de mai 68 et de ce qui en reste, et que finalement, il y avait quand même dans certains mouvements des tartuffes, il y avait des gens qui se battaient avec des vraies convictions. Justement, les conséquences qu'il y a eu dans dans une France. En fait, ça nous raconte la France d'aujourd'hui. C'est incroyable de voir Wes Anderson avoir aussi bien compris la France, avoir aussi bien compris ses joies, ses peines, ses doutes et parfois ses ratages. Et en même temps, il le fait avec une esthétique, avec un casting qui n'est que du bonheur à tous les instants. Mention spéciale d'ailleurs à nos Français qui sont dans le film. Et je pense notamment à Lina Koudry, qui on l'avait déjà vue dans Gargarine, on l'a vue dans plein de films cette année. À chaque fois qu'elle est à l'image, elle est formidable. Et vraiment, encore une fois, chez Wes Anderson, elle rayonne.
Et elle sera merveilleuse dans quelques semaines en haute couture aux côtés de Nathalie Baye. Allez, on écoute l'avis du public.
J'ai vraiment adoré. Le film était super riche. Il y avait un casting incroyable. C'était vraiment super charmant, l'ambiance. On ne pouvait pas ne pas tomber amoureux de l'ambiance de cette France.
Ce n'est pas le meilleur qu'il ait fait, mais j'avais peur d'être déçue et je n'ai pas été déçue.
Très, 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 très cool. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. On retrouve vraiment l'esprit de Wes Anderson dans son amour pour la symétrie, les couleurs pastel. Et ça fait plaisir de voir des Français aussi... travailler avec lui.
Et pour terminer cette semaine cinéma très chargée, rapidement un mot quand même sur Barbac, un film violent mais tellement drôle de Fabrice Eboué, comédie sanglante sur un couple de bouchers qui tue des véganes activistes. Super pitch.
Sophie et Vincent Pascal, dits les bouchers de Melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de véganes.
Tu m'as fait bouffer de l'homme.
Du vegan. C'est un herbivore.
La fille Satou !
C'est un malentendu !
Reviens, la fille Satou !
Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir ?
Victor, pour conclure.
Et bah, rapidement, je dirais que c'est tout ce qu'on attend d'un film de Fabrice Eboué. Si on a aimé Caisse Départ, si on a aimé Coexister, on retrouvera tout ce plaisir-là. En plus, c'est un film qui n'attaque ni les véganes, ni les viandards. C'est un film qui veut rassembler, justement, rassembler autour de l'amour de la vie, d'un film gore qui nous rappelle Les Bouchers Verts, qui utilise une vraie violence à l'image. Donc, c'est interdit aux moins de 12 ans, mais profitez-en. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de violence aussi joyeuse sur un grand écran.
Il y a beaucoup de violence joyeuse aussi dans Clap, mais c'est terminé pour cette semaine. Maintenant, vous avez rendez-vous avec William Lémergie. Merci Franck Vallière et Victor Bonnefoy. Clovis Cornillac, qui était notre invité cette semaine. Bon week-end à vous, surtout à l'écoute d'Europe 1. Et nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain. En attendant, allez au cinéma et portez-vous bien.